Rencontre littéraire. Au seuil de la nouvelle année, nous avons l'habitude de nous arrêter et de jeter un regard en arrière, de faire un petit bilan de l'année écoulée. Et c'est ce que nous allons faire également aujourd'hui. Au cours de l'année 2017, nous vous avons présenté dans le cadre de cette rubrique toute une série de personnalités du monde des lettres qui ont parlé de leurs œuvres, mais aussi de leurs inspirations et donc du monde dans lequel nous vivons. Voici quatre extraits d'entretien avec ces personnalités dont les œuvres méritent d'être lues et dont les voix devraient être entendues. À vous de cœur, c'est par cette formule que se terminaient certaines lettres adressées entre 1922 et 1938 par le poète français André Spire à son ami tchèque Otokar Fischer. Les lettres de ces deux poètes réunis par Marie-Odile Thirouin ont été publiées en version tchèque et française aux éditions PNP à Prague. L'éditrice du livre, Marie-Odile Thirouin, a bien voulu parler au micro de Radio Prague de cette correspondance qui est un vibrant témoignage de l'amitié profonde entre deux hommes de plume qui étaient aussi hommes de cœur. Quels étaient les grands thèmes de leurs œuvres et les principales sources de leurs inspirations? Marie-Odile Thirouin a évoqué ces inspirations dans un entretien réalisé en février dernier.
Pour ce qui est de Spire, c'est cette sensibilité sociale mêlée à sa profonde compassion pour les persécutions dont sont victimes les Juifs, dont les Juifs étaient victimes, tels qu'il les a vus par exemple à Londres en 1903, la misère de ces immigrants juifs venus de Russie, fuyant les pogroms de Russie et d'Europe de l'Est. Donc il y a ce goût de la... cette sensibilité sociale qui est vraiment à la source de la poésie d'André Spire. Je pense que chez Fischer, elle est aussi présente, mais il y a peut-être quelque chose de plus conventionnel, de plus convenu. Et c'est vrai que ce qui reste beaucoup d'Otokar Fischer, c'est la qualité de ses traductions. Traductions de l'allemand, hein, de Goethe, de Schiller, de Nietzsche, mais aussi du français, en particulier Villon. Et donc il y a, du point de vue de Fischer, une espèce de parenté très profonde entre les poètes, au-delà des frontières, des langues et des époques, ce qui est moins vrai pour Spire, pour lui la parenté est plus d'ordre justement de cette appartenance commune au judaïsme dans l'espace. Hein. Donc il y a plutôt un sentiment de synchronie chez Spire et un sentiment de diachronie chez Fischer.
Qu'est-ce que les deux poètes aimaient et admiraient surtout l'un chez l'autre?
Je pense que c'est une certaine franchise, une droiture, une façon d'exprimer soi sans égocentrisme, la sensibilité aussi au drame du monde, une espèce d'ouverture au monde à travers leur moi ouvert sur ce monde. Et je pense qu'il y a une sensibilité commune aux deux qu'ils apprécient mutuellement l'un chez l'autre. Une grande franchise, encore une fois.
Un livre, c'est comme une bouteille à la mer, dit l'écrivain et psychanalyste Patrick Desclercq, invité par le bureau de la délégation Wallonie-Bruxelles à Prague à l'occasion de la foire Le Monde du Livre. L'écrivain est venu, entre autres, pour présenter au lecteur son livre « Démon me turlupinant », dont la traduction tchèque est parue aux éditions Host. Radio Prague lui a demandé en mai dernier s'il était important pour lui d'être traduit en langues étrangères, et notamment en tchèque.
C'est tout à fait important, c'est même capital. Alors je ne dirais pas qu'on touche un public nouveau parce qu'il faut rester très modeste et très, très prudent. Un livre, c'est comme une bouteille à la mer. On ne sait pas qui ça va toucher, qui ça va pas toucher, pour autant que ça touche quelqu'un. Il n'y a absolument aucune garantie. Mais il est certain que plus le livre est traduit, plus il vit sa vie, et une vie complexe dans d'autres langues, mieux c'est. J'étais très frappé hier d'entendre un comédien tchèque lire des pages de mon texte. Je ne parle pas un mot de tchèque, malheureusement, mais je reconnaissais au nom qu'il citait, je savais de quel passage il s'agissait, et j'entendais une musique qui était remarquable, parce que d'abord, parce qu'il le lisait très très bien, c'était parfait, la musique était parfaite, la tonalité était parfaite, et l'on peut juger de la qualité de la traduction à partir de la musique. Je pense que là, ce qui m'intéresse d'abord dans la littérature, c'est sa musique.
Une alchimie entre la réalité et l'imaginaire. C'est ainsi que nous pourrions caractériser le roman « Les fragments solandaires » que l'écrivain français Pierre Sandor a situé surtout à Prague, cette ville mystérieuse ayant déjà nourri la fantaisie de toute une pléiade de romanciers dont Meyrink et Kafka. Le livre « Les fragments solandaires » est sorti en 2012 aux éditions La Dernière Goutte. Dans un entretien pour Radio Prague, l'auteur a parlé entre autres du rôle de Prague dans son roman.
Prague, je l'ai découverte il y a un peu plus de 15 ans, d'une manière un peu spéciale, puisque j'ai rencontré ma femme en Écosse. Elle avait fait ses études à Prague, elle était tchèque, et c'est elle qui m'a fait découvrir le Prague qu'elle connaissait à travers les récits secrets de Jaroslav Foglar, pour l'adolescent, les scouts. Donc tout un réseau un peu secret de signes sur les murs. C'était un peu une figure initiatique pour moi de montrer le Prague qui est un peu inconnu des touristes. Et même aujourd'hui, je vois toujours les rues de Prague qui sont des autoroutes touristiques, certaines comme le Pont Charles par exemple. Et à quelques pas de là, Malastrana, il y a des petites ruelles qui sont absolument désertes et qui sont très très belles, que j'évoque d'ailleurs dans mon roman, où j'ai déplacé le décor. Donc quand j'ai découvert Prague, il y avait toute cette densité de l'imaginaire qui était présente à travers des auteurs comme Meyrink, comme Paul Lépine aussi, qui est un peu moins connu, Kafka bien sûr, et qui Vladimir Holan. Toutes ces figures-là m'ont nourri et ont été des guides pour le Prague que j'ai découvert, et qui se fondaient pour moi totalement avec une réalité imaginaire que je portais en moi-même. Il y a eu une sorte de rencontre comme ça, on pourrait dire un coup de foudre.
En 1947, un jeune homme de 17 ans réussit à attirer l'attention du président syrien. Elle lui récite son poème. Subjugué par le talent et le courage du poète en herbe, le président décide de lui payer ses études. C'est le début de la carrière d'Ali Ahmed Saïd Esber, qui s'imposera plus tard sur la scène littéraire internationale sous le nom de Guerre d'Adonis. Aujourd'hui, Adonis est considéré comme un des plus grands poètes arabes contemporains. Il a intervenu d'une façon remarquable dans la polémique sur l'islam qui se poursuit actuellement dans le monde, et il a évoqué ce thème également dans un entretien pour Radio Prague.
L'islam actuel, régnant d'abord, c'est une invention occidentale. C'est l'Occident qui a inventé cet islam régnant, parce qu'il a inventé d'abord Al-Qaïda, Bin Laden, et il a inventé après Daesh et compagnie, et il n'a jamais œuvré avec des forces de progrès dans le monde arabe, dans toute son histoire. Donc on ne peut plus comprendre l'islam en faisant abstraction de la politique américaine et malheureusement de la politique européenne aussi. Donc pour mieux comprendre l'islam, actuel surtout, il faut comprendre la nature des rapports de l'Occident avec cet islam. Voilà, donc c'est à vous, intellectuels européens, de nous dire qu'est-ce que vous voulez de cet islam que vous avez inventé.
Vous avez constaté quelque part qu'une certaine agressivité fait partie de l'islam. Est-ce que c'est comme ça?
Absolument. Ce n'est pas l'islam seulement. Parce que l'islam, vous savez mieux que moi, que l'islam fait partie du monothéisme. Et le monothéisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui était la dernière variation, le monothéisme, c'est par définition une religion violente. Il suffit de lire la Bible, il suffit de lire les évangiles, et il suffit de lire le Coran, qui est une variation sur ces livres. Donc, ce n'est pas seulement l'islam qui est violent, c'est aussi les autres monothéismes. Et pour cerner l'aspect ou bien la dimension de la violence en islam, il faut comprendre aussi cette dimension dans des autres religions. Vous savez, ils ont un père, Abraham. C'est le père Abraham qui est le père des trois monothéismes. Et les prophètes, ce sont les mêmes. Les prophètes dans la Bible, ce sont les prophètes dans le Coran. Vous connaissez ça. Donc, si actuellement, c'est l'explosion de cette violence en islam, il faut aussi, je répète, voir le rôle des autres monothéismes dans cette explosion.